Il y a 2 semaines, un peu, 2 semaines, oui, il y a deux dimanche pas dernier, celui d'avant, on avait considéré pour cette période de janvier, hein, où on aime en général faire des résolutions, les exhortations de l'Écriture. On avait dit que toutes les exhortations de l'Écriture sont en fait des résolutions que l'on peut prendre, et on avait considéré le fait de croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je voudrais considérer une autre exhortation que nous pourrions aussi prendre comme une exhortation à maintenir tout au long de cette année, parce qu'elle se trouve dans Tite au chapitre 3. Alors, l'appel de l'Évangile dans la vie, hein, consiste à la Bible dit se tourner vers Christ en se détournant des idoles et afin de servir Dieu, le Dieu vivant et vrai. Et ce qui est attendu d'un croyant, c'est qu'il vive d'une manière digne de l'Évangile. Qu'il vive d'une manière digne de l'Évangile. Donc sa vie doit caractériser le fait que l'Évangile vit en lui. Et l'Évangile, c'est ce que fait l'Évangile, c'est qu'il opère des changements dans l'être tout entier. L'Évangile opère des changements dans l'être tout entier. Changement de cœur, mais aussi changement de conduite. Et 1 Pierre, que nous avons étudié, la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 17, dit: Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, qu'est-ce qu'il demande de faire? Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage ou pendant le temps de votre séjour sur la terre. Donc, celui qui prétend invoquer Dieu comme père, lui qui prétend être un chrétien, doit se conduire avec crainte. Et avec sagesse pendant le temps de son pèlerinage sur la terre. Donc, il doit avoir une conduite qui vient en conséquence de ce que l'on affirme comme changement intérieur en nous. Alors, on avait considéré, je le disais, la grâce de Dieu. Bien, nous allons considérer aujourd'hui le fait de croître dans la grâce de Dieu. Nous allons considérer aujourd'hui le fait de croître dans les œuvres. Et ce ne sont pas des choses qui sont contradictoires. Parfois, on les oppose, hein. On les oppose. Il y a qui élèvent la grâce à un point tel que ils négligent complètement les œuvres et ils brandissent le fait que l'on est sauvé par grâce, n'est-ce pas? C'est par grâce que l'on est sauvé et non par les œuvres. Et donc, après tout, les œuvres, ça n'a pas d'importance. Et puis d'autres, parfois, placent les œuvres à un niveau tel qu'ils pensent qu'ainsi ils peuvent être agréés par Dieu. Quelqu'un m'a dit une fois, Dieu ne peut pas ne pas voir ce que je fais. Il ne peut pas ne pas le considérer. Je fais le bien. Je fais de bien. Et Dieu prendra cela en compte. Mais la Bible dit que non, on ne peut pas à s'approcher de Dieu par nos propres mérites. Il n'y a aucun bien que l'on puisse faire pour s'approcher de Dieu. Néanmoins, l'Écriture, elle, maintient un bon équilibre entre les deux choses. Et nous allons lire dans Tite, chapitre 3, les épîtres pastorales. Tite fait partie de ce qu'on appelle une épître pastorale. Ce sont les épîtres que Paul a écrits à un individu en particulier, à Tite, et puis il y a aussi 1 et 2 Timothée. Et quand on lit ces textes, on voit combien ils regorgent d'exhortations aux bonnes œuvres, à pratiquer les bonnes œuvres, à peu près 13 fois dans l'ensemble de ces trois épîtres. Et dans l'épître de Tite, chapitre 3, que je vous invite à prendre, nous lisons au verset Tite, chapitre 3 et au verset 8, nous lisons ceci. Il dit, cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses. C'est Paul qui parle à Tite et il lui dit ce qu'il doit faire concernant l'Église. Il dit, cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Vous voyez cela ici, hein? Je veux que tu affirmes que les choses, ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui professent, ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, les chrétiens donc, afin qu'ils s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. D'accord. Donc, ce sont des paroles prononcées par celui qui est considéré comme le prédicateur de la grâce, hein, de l'évangile de la grâce, et non de l'évangile auquel on approche Dieu par les œuvres. Et Paul écrit cela à la fin de sa vie. C'est un vieillard, il laisse les instructions, et parmi les instructions qu'il laisse à ses enfants dans la foi, Timothée, il parle de l'importance de pratiquer des bonnes œuvres. On veut considérer cela ce matin, et j'ai intitulé ce message « Exceller dans la pratique des bonnes œuvres ». Exceller dans la pratique des bonnes œuvres. Paul dit d'abord ici, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses. Alors, quelles sont les choses qu'il veut que Tite affirme? Alors, on pourrait penser que ce sont les choses qui viennent, ce qu'il va dire, mais ici, c'est plutôt ce qu'il a déjà dit. Hein. Donc, dans le contexte immédiat, ce qu'il dit entre les versets 4, particulièrement, et les versets 7. Hein. Et il dit, je veux que tu affirmes ces choses afin que cela puisse produire une attitude, une pratique de bonnes œuvres chez ceux qui ont cru. Donc, premièrement, ce que Paul souligne ici, c'est que ce qu'on peut relever de ce que Paul dit ici, c'est que la prédication, insistante, parce qu'il dit, je veux que tu insistes, insistante de l'évangile de la grâce, est le meilleur moyen pour produire une vie riche en bonnes œuvres. La prédication insistante de l'évangile de la grâce est le meilleur moyen de produire une vie riche en bonnes œuvres. C'est-à-dire que Paul ne dit pas, dis-leur de faire ceci, dis-leur de faire cela, dis-leur d'aller ici, dis-leur d'aller là. Bien sûr, il dit cela aussi, hein, quand on lit les épîtres pastorales, mais ici, il dit, je veux que tu enseignes, que tu affirmes. Il y a des choses qui doivent être affirmées, qui doivent être attestées avec une pleine confiance. Je veux que tu enfonces ces choses. Je veux que tu les déclares, que tu insistes là-dessus et de manière continuelle. Et ces choses sont celles qu'il vient de dire auparavant. Tout ce qu'il a annoncé. On va lire ici du verset 4, peut-être déjà du verset 3, jusqu'au verset 7. Même du verset 1 jusqu'au verset 7. Il dit, rappelle-leur ces choses, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'être quoi? Prêt à toute bonne œuvre. Voilà on retrouve déjà cela ici, d'être prêt à toute bonne œuvre. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant nous-mêmes. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Puis au verset 8, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses. Et donc, Paul dit, on souligne ici que le fait d'insister sur l'évangile de la grâce, sur la grâce de Dieu, sur ce que Dieu a fait, c'est le meilleur moyen de produire une vie riche en bonnes œuvres chez ceux qui ont cru. Et donc, ces choses dont parle Paul ici sont d'abord la dépravation de l'homme et son incapacité à produire une quelconque œuvre, bonne œuvre, une quelconque œuvre de justice. Il dit, car nous aussi, verset 3, nous étions autrefois, quoi ? Insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Voilà ce qu'est l'homme naturel, incapable d'aucune bonne œuvre. Naturellement, ce qu'il fait, c'est le mal, ici. D'accord? Donc, Paul montre que, ici, il faut enseigner cela, que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit de bon, que nous pouvons apporter à Dieu. Toutes nos œuvres sont des mauvaises œuvres, ce que la Bible appelle des fois les œuvres des ténèbres. Alors, pourquoi Paul demande de rappeler ça aux croyants? Parce que souvent, on a tendance à l'oublier. Et même, celui qui est venu à Christ, il a tendance à oublier ce qu'il était. Paul dit ici, car nous aussi, nous étions. Il ne faut pas oublier cela. C'est notre nature. D'accord? Si on se lâche, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est ça, ici. Que l'on soit croyant ou non, on est toujours capable d'accomplir de telles choses. Et naturellement, c'est vers ces choses que notre cœur a envie d'aller. Et c'est vers ces choses qu'il va. Et Paul dit, souvent dans Éphésiens, il dit la même chose. Il dit, souvenez-vous que vous étiez ce que vous étiez. On ne doit pas oublier ce que l'on était, ce que l'on est encore capable de faire, cette nature pécheresse qui est en nous. Ça, c'est la première chose qu'il demande de rappeler. Mais il dit aussi de rappeler, verset 4, la manifestation libre et souveraine de la bonté de Dieu. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes a été manifestée. Il dit, voilà ce que nous étions, ce que nous sommes capables de faire, dans quel état nous étions, incapables de faire quoi que ce soit pour nous-mêmes. Et puis Dieu est intervenu souverainement et librement dans sa bonté. Il dit, lorsque la bonté de notre Dieu et son amour pour tous les hommes a été manifesté. Manifesté en Jésus-Christ. La Bible dit que, l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Romains, chapitre 5, verset 8, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions encore des ennemis de Dieu par nos pensées et par nos mauvaises œuvres, nos mauvaises actions. Et Christ, il est venu. Il est venu de manière souveraine. Et dans sa bonté, il a agi. Il dit, alors, en lisant ces passages, cette section est vraiment un condensé, on pourrait dire, ces versets 4 jusqu'au verset 7, un condensé vraiment de l'évangile de la grâce. Paul dit en quelques mots, il y a beaucoup de choses qui sont contenues là-dedans. Il dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés. Dieu est venu à cause de sa bonté et de son amour pour les hommes. Il nous a sauvés. Non parce qu'il a trouvé que nous étions en train d'accomplir des choses bonnes. Parce qu'on avait quand même par rapport à d'autres une attitude qui n'était pas si mauvaise que cela. Il dit non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites parce que nous sommes incapables d'accomplir une quelconque œuvre de justice. Tout ce dont nous sommes capables, c'est le verset 3. Tout ce dont nous sommes capables, c'est le verset 3. Alors Dieu vient, et puis il nous sauve. De manière inconditionnelle, on pourrait dire ici. Sans que ça soit basé sur ce que nous ayons fait. Une quelconque œuvre que nous lui ayons présentée. Il dit, mais il le fait, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, selon sa miséricorde, par le bain de la régénération. Il nous a fait naître de nouveau, dit Jésus à Nicodème. C'est la même expression ici, d'accord? La Bible dit que nous sommes régénérés par sa parole puissante, vivante et permanente. Il nous a régénérés par son esprit. Il a fait de nous une nouvelle créature. Tout ça, il nous a fait naître d'en haut. Tout ça, ce sont des synonymes. Il l'a fait par son esprit. Après, il dit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, en vertu de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix du calvaire. Il dit, afin que maintenant, étant justifié, non pas par nos œuvres, étant justifié par quoi? Par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Exactement ce que l'apôtre Pierre dit quand il dit, n'est-ce pas, que Dieu, selon sa grande miséricorde, dit béni soit Dieu qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, n'est-ce pas, pour une espérance vivante. D'accord? Et qu'on a un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Il dit exactement la même chose ici. Et voilà tout ce que Dieu a fait. Donc, Paul dit en substance, il faut prêcher continuellement ce que Christ a fait. L'incapacité de l'homme, sa dépravation, son incapacité à faire quoi que ce soit pour se sauver, pour accomplir une quelconque bonne œuvre. L'intervention en grâce de Dieu dans sa miséricorde, dans son amour, dans sa bonté, pour régénérer le pécheur. Il dit, tu prêches ça, tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Et donc, Paul dit ici que ces choses sont dignes de toute acceptation, choses certaines, dignes d'être enseignées avec insistance, dignes d'être enseignées constamment. Il ne dit pas ici qu'on parvient à la pratique des bonnes œuvres en disant « fais ceci, fais ceci, fais cela, viens au culte, assiste à l'étude biblique, inscris-toi sur la liste du ménage, va faire la distribution, ne néglige pas le groupe de jeunes, passe du temps dans la prière, lis 3 chapitres par jour de la Bible. » Ces choses sont bonnes, mais c'est pas comme cela qu'il commence. Il dit « insiste sur l'évangile de la grâce, sur la grâce de Dieu. » Sur ce que nous avons en Jésus-Christ, sur ce que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ. Je veux que tu affirmes ces choses. Et donc, recevoir la vérité révélée de Dieu dans sa parole a infiniment plus de force pour nous transformer que de mettre tous nos muscles à essayer de nous changer nous-mêmes extérieurement. Alors, bien sûr, il faut faire des efforts. Mais il dit, cela doit commencer avec sur un bon fondement, sur la méditation insistante des vérités de l'évangile. Il n'y a pas de progrès dans les œuvres, dans la conduite, s'il n'y a pas un fondement. Quelqu'un disait, c'est comme essayer de construire un bâtiment en commençant par le toit, ou par les murs. Il dit, non, il faut d'abord poser le fondement, et après on construit sur ce fondement. Et donc, recevoir vraiment la vérité de Dieu, méditer, connaître, chercher dans sa parole, c'est ce qui, ça a beaucoup plus de force pour transformer la conduite que tous les efforts, toutes les méthodes seules que l'on peut utiliser. Jésus, dans sa prière, dans Jean 17, rappelez-vous ce qu'il a dit pour ses disciples, il a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est là. Vérité. Sanctifie-les. Il n'a pas dit sanctifie-les en les ôtant du monde. Sanctifie-les. C'est pas moi, en les mettant dans tel endroit. Sanctifie-les en les entraînant à faire. Non, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité parce que la parole, la méditation de la parole a tout pouvoir pour nous transformer. C'est ainsi que Dieu a prévu les choses. Ça marche parce que Dieu a prévu que ça marche ainsi. Et c'est pour cela qu'il faut insister sur la vérité de l'évangile. L'obéissance, quelqu'un disait, a plus d'importance que la que la victoire. Parfois, on cherche à avoir la victoire dans les choses et pas à obéir à la parole de Dieu simplement. Je lisais un livre qui s'intitule « Vers une vie sainte » qu'un homme a écrit et il montrait, il disait pourquoi dans la progression dans la sainteté on a de la difficulté. Il donnait trois raisons, selon lui en tout cas, pour lesquelles on avait du mal parfois à progresser dans les bonnes œuvres, dans la sainteté. Et l'une des choses, il dit que c'est notre attitude à l'égard du péché qui parfois est un problème. Et il dit que notre attitude à l'égard du péché est plus égocentrique que théocentrique. Alors, c'est des mots, mais c'est facile à comprendre. Hein. Elle est plus centrée sur nous que sur Dieu. On lutte contre le péché, parfois, en se concentrant sur nous-mêmes. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je mette au point ceci, que je mette au point cela. J'essaye, puis je rechute, puis je recommence, puis je rechute. Et puis, il dit, ce qu'on cherche, en fait, c'est la victoire. Mais ça, c'est une attitude égocentrique et orgueilleuse. Alors, bien sûr, c'est important d'avoir la victoire sur le péché. Mais il ajoute ceci. Il dit que nous sommes préoccupés par nos victoires sur le péché plus que par la tristesse infligée au cœur de Dieu. Il dit que la volonté de Dieu, c'est que nous marchions dans l'obéissance et pas simplement dans la victoire. L'obéissance est centrée sur Dieu et la victoire est centrée sur nous. C'est-à-dire que considère le péché simplement comme quelque chose que je dois vaincre et que je mets tous mes efforts pour le vaincre, une fois que l'on arrive, disons que l'on commette plus ce péché, il y a quelque part quelque chose d'orgueilleux. J'ai réussi à vaincre cette étape. Maintenant, je suis là, je vais en entamer une autre. Mais c'est pas ainsi que l'on doit considérer le péché. On doit considérer le péché comme une transgression, un manque de conformité à la loi morale de Dieu dans nos actes, dans nos pensées et dans nos paroles. Le péché est une transgression de la loi de Dieu. Donc, on doit avoir en tête que quand je pêche, j'offense Dieu. Ce n'est pas quand je pêche, voilà, je montre que je suis faible et donc je vais essayer de surmonter cela pour avoir la victoire. Non, quand je pêche, j'offense Dieu. Parce que Dieu est saint. Et c'est, je dois chercher à obéir à sa parole, à faire ce qu'il me commande dans sa parole. Plus que de chercher simplement la victoire. Je dois pas être centré sur moi, je dois être centré sur lui. C'est pour ça que Paul dit, insiste sur l'évangile pour que ceux qui croient puissent avoir une bonne conduite. Si on insiste que sur la conduite, eh bien, il y a des gens qui ne font pas certaines choses, mais ils sont pas forcément chrétiennes. Le fait de ne pas faire cela ou de faire quelque chose qui procure du bien aux autres, on n'a pas besoin d'être chrétien pour le faire. C'est pas ce que Paul dit ici, d'accord? Donc il dit, c'est pas ce qu'on veut. On veut que le croyant médite la parole de Dieu, qu'il s'expose à son enseignement de l'évangile de la grâce, afin qu'il puisse accomplir ce que l'Écriture appelle de bonnes œuvres. On verra cela un petit peu plus tard. Donc la prédication insistante, ça c'était mon premier point ici, de l'évangile de la grâce, est le meilleur moyen de produire une vie riche en bonnes œuvres. Et vous pouvez avoir beaucoup d'exemples de personnes qui vivaient dans le désordre et qui ont entendu l'évangile, qui l'ont cru et qui ont eu leur vie transformée par l'évangile de la grâce. Ils n'ont pas commencé par changer leur conduite pour arriver à l'évangile. Ils ont cru à l'évangile et leur conduite a été changé. Je pense qu'ici, dans cette salle, beaucoup peuvent dire aussi la même chose. De choses qu'on croirait ne jamais pouvoir abandonner et que par la grâce de Dieu, on réussit à abandonner parce que nous sommes confiés dans la parole de Dieu et dans l'évangile de la grâce. Deuxième chose que je voudrais souligner ici, c'est que dans ce verset 8, la pratique des bonnes œuvres est la conséquence d'une foi authentique. La pratique des bonnes œuvres est la conséquence d'une foi authentique. Paul dit, je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru, qu'il parle de ceux qui ont la foi en Dieu, ceux qui ont cru en Dieu, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Ceux qui sont concernés ici par la pratique des bonnes œuvres sont ceux qui ont cru en Dieu. Et ce sont ceux qui sont, ceux dont il est question au verset 7, ceux qui sont justifiés par sa grâce. Ceux qui ont été l'objet de la manifestation de la grâce de Dieu, de sa miséricorde, de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. D'accord. Et mais ceux-là, il dit, ils doivent s'appliquer à pratiquer aux bonnes œuvres. Donc la pratique des bonnes œuvres est, il montre que, ça, que la pratique des bonnes œuvres est la conséquence d'une foi authentique. La vie chrétienne ne peut pas être sans produire de fruits. Une vie chrétienne qui ne produit pas de fruits est douteuse. Paul dit à, dans Tite chapitre 3, verset 14, je vous lis, « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux besoins des saints, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. » Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas normal qu'un croyant ne produise pas de fruits. C'est un principe. C'est un principe de vie. La pratique des bonnes œuvres, c'est la conséquence d'une foi authentique. Alors, certes, l'Évangile insiste là-dessus, les bonnes œuvres ne confèrent et ne sauraient conférer, ne confèrent pas et ne sauraient conférer le salut. Tite, et l'apôtre Paul le rappelle juste deux versets plus haut, il dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Il n'y a aucune œuvre que nous pouvons faire qui puisse nous procurer la faveur de Dieu et le salut. Et on le trouve ailleurs dans l'Écriture, Galates 2:16 dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » C'est quand même clair, il le dit plusieurs fois ici. Donc Galates chapitre 2, verset 16, on peut le trouver encore dans Éphésiens 2. Il y a beaucoup d'autres endroits où la Bible, l'apôtre Paul insiste là-dessus. On n'est pas sauvé par les œuvres de la loi. Mais les bonnes œuvres ne confèrent pas le salut, mais les bonnes œuvres attestent du salut. Et l'apôtre Jacques le dit tout aussi clairement. Alors on a tendance à opposer l'apôtre Jacques et l'apôtre Paul, mais les deux disent... la même chose montre deux facettes de la vérité concernant la foi. Et je vais vous lire Jacques chapitre 2, cherchez avec moi Jacques chapitre 2, verset 14 à verset 17. Jacques chapitre 2 et verset 14 à verset 17. Et nous pouvons lire ceci. Jacques s'étonne, il pose des questions à ceux qui professent croire en Dieu, avoir la foi. Et il dit... chapitre 2, verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire ?» Vous voyez, il y a des gens qui professent. « Je suis chrétien, j'ai la foi, je crois en Dieu. » Il dit, « À quoi sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ?» Il dit qu'une foi qui ne produit pas des œuvres n'est pas une foi salvatrice, n'est pas une foi qui sauve. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Je continue. Verset 15, il dit, si un frère ou une sœur nu manque de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est de même, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et après, c'est toujours, il développe à chaque fois la même idée. Verset 26, il dit, comme un corps sans esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Il dit, la foi rend visible, les œuvres, pardon, rendent visible la foi. Les œuvres rendent visible la foi. Les bonnes œuvres sont la manifestation de la foi. Elles sont sa mise en évidence. Elles sont sa mise en évidence. La foi, on pourrait dire, est inévitablement agissante extérieurement. Une foi qui existe réellement se manifeste toujours de manière extérieure. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Galates, Galates chapitre 5, verset 6, quand il dit, c'est en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais ce qui a de la valeur, c'est la foi agissante par l'amour. La foi qui agit par des actes d'amour envers les autres, par des œuvres d'amour envers les autres. Donc, ce que l'on doit voir chez ceux qui ont cru, dit Paul, c'est la pratique de bonnes œuvres. Le salut a pour but de pratiquer, d'induire la pratique de bonnes œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour de bonnes œuvres. Et c'est ce que l'Écriture dit, Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage. » C'est le même passage où il dit « Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la grâce, afin que nul ne se glorifie. » D'accord ? Nous sommes sauvés par la grâce. Ce même passage, verset 10, Éphésiens 2, dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées, afin que nous les pratiquions. » Il dit que Dieu a préparé des œuvres pour que nous le pratiquions. L'homme pécheur, sauvé par grâce, est créé en Jésus-Christ afin d'accomplir de bonnes œuvres. Le but du salut est de nous rendre capables d'accomplir de bonnes œuvres. Et Dieu lui-même a préparé ces bonnes œuvres afin qu'elles soient pratiquées par le chrétien. La mort sacrificielle de Christ a pour but la création d'un peuple dont une caractéristique est qu'il soit zélé pour de bonnes œuvres. Ici, c'est dans l'épître de Tite que nous sommes en train de lire, que cela est écrit, Tite 2, verset 14, l'apôtre Paul dit, il, en parlant de Jésus-Christ, s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Donc, cela veut dire que quand on regarde le peuple de Dieu, ce que l'on doit voir, c'est des hommes et des femmes qui brûlent d'un zèle pour accomplir de bonnes œuvres. Cela caractérise l'enfant de Dieu. Celui qui dit, moi, je suis sauvé par grâce, c'est pas par les œuvres, je n'ai rien à faire, on peut rien faire. C'est Dieu qui produit en vous, vouloir le faire. Nous, on n'a rien à faire. Et il ne fait rien. Eh bien, il se trompe. Parce que ce que l'on doit voir chez celui qui appartient à Christ, c'est son zèle pour les bonnes œuvres. Parce que c'est pour cela que Christ s'est livré, s'est donné lui-même, afin de se racheter un peuple purifié par lui et brûlant d'ardeur pour accomplir sa volonté et avoir une conduite qui lui plaise en pratiquant des bonnes œuvres. Alors on pourrait se poser la question, mais ne peut-on pas accomplir des bonnes œuvres sans la foi? On dit que les bonnes œuvres sont la conséquence de la foi. Mais n'y a-t-il pas des gens qui accomplissent de bonnes œuvres sans la foi? Il y a des gens qui font beaucoup de choses bonnes, ils font du bien aux autres. Ils s'occupent des démunis, on appelle ça les œuvres sociales, n'est-ce pas? Ils font des choses pour les personnes qui sont sans abri. Ne peut-on pas faire toutes ces choses sans la foi? Si on dit que les bonnes œuvres découlent de la foi, sont la conséquence d'une foi authentique, on pourrait dire que toutes ces personnes ont une foi authentique. Alors, l'Écriture aborde les choses toujours d'un point de vue de Dieu, pas du point de vue de nous-mêmes, de l'homme, ici. Et le point de vue de Dieu est toujours un point de vue spirituel parfait. Ésaïe 64, verset 6, ou verset 5, suivant votre numérotation, dit ceci, « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Il décrit l'être humain. On avait dit tout à l'heure que la nature même, c'était ce que Paul disait dans le verset 3, concernant ce que nous étions, voilà ce que l'on est capable de procurer. Mais ici, il dit que toute notre justice, tout ce que nous faisons de bien et de mieux aux yeux de Dieu, du point de vue la perfection de Dieu, n'est qu'un manteau impur et souillé. Tout ce que peut faire de mieux l'homme pécheur est entaché par ce que l'homme pécheur est, un pécheur qui pêche par le péché. Et donc les meilleures actions humaines sont comme des vêtements souillés aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de bonne œuvre qui ne découle pas de la foi en Dieu. Il n'y a pas de bonne œuvre qui puisse être produite hors de la foi en Dieu. Alors, est-ce que des bonnes œuvres peuvent être produites sans la foi? Non. Bibliquement, non. Alors, certes, il y a des choses que les hommes font qui peuvent procurer du bien, mais quand on ramène ça à la perfection de Dieu et à ce que Dieu exige, eh bien, non. Il faut la foi pour accomplir de bonnes œuvres. C'est pour ça que Paul dit que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres, parce que c'est pour cela que Dieu les a rachetés, pour de bonnes œuvres. Et parce qu'il n'y a pas de bonnes œuvres possibles hors de la foi. Tout est pur, dit Tite chapitre 2. Regardez Tite chapitre 2, versets 15 et 16. Il dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par quoi? Par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, et écoutez cela, incapables d'aucune bonne œuvre. C'est la description de l'homme naturel. C'est la description de vous et de moi, naturellement. Nous sommes incapables, aux yeux de Dieu qui juge toutes choses, qui pèse toutes choses, qui pèse les cœurs et les reins, d'accomplir aucune bonne œuvre. Pas même une seule. L'apôtre Paul citait l'Ancien Testament, il disait, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc non, il n'y a pas de possibilité d'accomplir de bonnes œuvres hors de la foi en Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas accomplir de bonnes œuvres à cause de ce qu'ils sont. Nous ne pouvons pas, si nous ne sommes pas en Christ, accomplir de bonnes œuvres à cause de ce que nous sommes naturellement. Le prophète Jérémie le fait sentir, il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Il dit, un léopard peut-il enlever ses taches? Il ajoute, de même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Il dit, en fait, on a un problème de nature. L'Éthiopien ne changera pas la couleur de sa peau, elle est comme elle est, parce qu'il est Éthiopien. Il dit, le léopard n'enlèvera pas ses taches, parce qu'il il a des taches parce qu'il est léopard. Et l'homme naturel, il fait le mal parce qu'il est homme naturel. Il ne peut pas faire le bien. À moins qu'il ait une nature qui lui permette de faire le bien. Et vous voyez pourquoi est-ce qu'il faut être racheté pour pouvoir accomplir le bien. Et donc même si l'homme donne son meilleur, ça sera pas mal, on pourrait dire, mais ça ne sera pas une bonne œuvre aux yeux de Dieu. Je voudrais ajouter juste un verset ici qui montre pourquoi est-ce que on ne peut pas accomplir une bonne œuvre sans la foi. Hébreux chapitre 13 versets 20 et 21. Regardez Hébreux chapitre 13 versets 20 et 21. Nous lisons ceci, Hébreux chapitre 13 versets 20 et 21. Il dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez vu ce passage? Il dit que le Dieu qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts vous rende capable de toute bonne œuvre. Pour accomplir une bonne œuvre, il faut que Dieu nous rende capable de le faire. Et comment est-ce qu'il nous rend capable de le faire? Qu'il fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ. Donc il faut que l'évangile de la grâce ait pénétré le cœur pour que ceux qui ont cru puissent accomplir de bonnes œuvres. Et donc oui, la pratique de bonnes œuvres est la conséquence, n'est-ce pas, d'une foi authentique. La pratique des bonnes œuvres est la conséquence d'une foi authentique. C'est le résultat, on le voit ici, de l'œuvre de Dieu dans le cœur. Et quand Paul parle, par exemple, aux Philippiens, il dit, je loue Dieu pour la part que vous prenez à l'évangile. Il a vu quelle part ces Philippiens prenaient à l'évangile? Eh bien, ils faisaient des dons à Paul, ils étaient investis dans la propagation de l'évangile. Ils avaient des bonnes œuvres et Paul dit, je rends grâce à Dieu pour la part que vous prenez à l'évangile. Et puis il ajoute, car je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Il dit que ce que vous êtes en train de faire, ça n'est que le reflet de la bonne œuvre que Dieu a commencé en vous. Ça se manifeste extérieurement comme cela. Mais c'est Dieu, en fait, qui est en train d'agir en vous et d'initier cette bonne œuvre. Et Dieu la rendra parfaite jusqu'à son terme. Et puis, je termine, troisièmement, avec ceci. C'est que la pratique de bonnes œuvres doit faire l'objet de la plus grande attention et, comment je vais dire ça, implication de la part du chrétien. Paul dit, insiste sur ces choses afin que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Alors, je vais vous lire ce verset dans deux ou trois traductions différentes. La Bible en français courant dit ceci. C'est là une parole certaine. Je veux que tu insistes beaucoup sur ces points-là afin que ceux qui croient en Dieu veillent à s'engager à fond dans les actions bonnes. C'est ça qu'ils disent. Je vous lis la version Darby, comment c'est écrit, qui est proche un peu du texte littéral, dit « Cette parole est certaine, je veux que tu insistes sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres. » C'est le sens un peu de pratique ici, c'est comme présider, hein. C'est le même mot qui est traduit, il faut que ceux qui président le fassent avec zèle, et le président, celui qui se tient devant et qui fait les choses. Donc il dit, ceux qui ont cru doivent être un peu à l'avant de la pratique des bonnes œuvres. C'est pas ceux qui n'ont pas cru, c'est ceux qui ont cru qui doivent être les premiers à pratiquer les bonnes œuvres. Et puis, la Nouvelle Bible Second dit ceci, cette parole est certaine, et je souhaite que tu l'affirmes catégoriquement, afin que ceux qui ont placé leur foi en Dieu s'appliquent à exceller dans les belles œuvres. C'est ça que j'ai intitulé mon message, exceller dans la pratique des bonnes œuvres. Vous voyez ce qui est demandé ici? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est fort, c'est pas juste pratiquer des bonnes œuvres. Il dit qu'ils s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres, qu'ils soient les premiers à les faire, qu'ils réfléchissent, que cela fasse partie de leur pensée, qu'ils se posent la question de comment ils peuvent le mieux possible pratiquer les bonnes œuvres. Ils doivent le faire constamment. Ça doit être l'objet de leur pensée. Ça doit être l'objet de leur pensée. Comment je peux vivre en obéissant de la parole de Dieu? Comment je peux accomplir ceci de la meilleure façon qui soit? Ce n'est pas quelque chose que l'on doit prendre à la légère. C'est pour ça que Paul dit à titre que Dieu s'est livré pour se former un peuple qui est zélé par lui pour de bonnes œuvres. En Tite 3:14, il dit, il faut que les nôtres apprennent à pratiquer. Elle dit que peut-être qu'on ne le fait pas bien, mais il faut progresser au fur et à mesure dans la manière de pratiquer les bonnes œuvres. Il dit même à Tite, au chapitre 2, versets 6 et 7, je vous lis, il dit « Exhorte les jeunes gens à être modérés ». Voilà. Il dit voilà qu'il faut qu'ils fassent des bonnes œuvres. Il dit « Exhorte-les à accomplir les bonnes œuvres de la modération ». Il dit « Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres ». Il dit « Tu les exhortes à le faire, mais toi-même, tu dois être un modèle de bonnes œuvres ». Et donc vous voyez un peu toute l'importance de cela. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25, dit ceci. Prenons garde, je lis dans la version Darby, il dit, prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. Il dit, voilà, il faut que les chrétiens se rassemblent et qu'ils s'exhortent mutuellement. Qu'ils s'excitent mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est quelque chose que l'on doit prendre au sérieux. Galates 6, 10 dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien. Chaque circonstance doit être saisie pour pratiquer le bien. Envers tous, dit-il, mais particulièrement envers les frères dans la foi. Et pourquoi faut-il pratiquer avec une telle insistance les bonnes œuvres? Pourquoi faut-il mettre son esprit là-dessus? Pourquoi faut-il méditer la parole de Dieu pour connaître sa loi et pour pouvoir la mettre en pratique? Eh bien, il dit parce que cela est bon et utile aux hommes. Vous voyez, Tite 3, verset 8, la fin du verset 8 dit parce que cela est bon et utile aux hommes. La pratique soigneuse des bonnes œuvres a une utilité auprès des hommes. Elle est un témoignage à la gloire de Dieu. Quelqu'un fait remarquer cela, j'ai pas remarqué ça, mais on va relever la première fois où les bonnes œuvres, l'expression bonne œuvre est utilisée dans la Bible, et la dernière fois où elle est utilisée. J'ai pas dit le mot œuvre, mais l'expression bonne œuvre. Regardez dans Matthieu. Et au chapitre 5, verset 16, Matthieu chapitre 5, verset 16, Matthieu chapitre 5, verset 16, Matthieu 5, 16, il est dit ici que votre lumière, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient quoi? Qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est la première fois. La dernière fois, c'est dans l'épître que nous sommes en train d'étudier, que nous allons reprendre bientôt, dans 1 Pierre, chapitre 2 et au verset 12. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteur, il remarque vos, dites-le, bonnes œuvres, et il fasse quoi? Qu'il glorifie Dieu. Exactement la même pensée. L'une dite par Pierre, l'autre dite par le Seigneur Jésus. Que votre lumière luise parmi les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient Dieu. Et Pierre dit, eh bien, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Par conséquent, cela est bon et utile aux hommes parce que celui qui pratique, le chrétien qui pratique les bonnes œuvres, rend un témoignage à la gloire de Dieu. Quand l'inconverti même voit la manière avec laquelle les choses sont appliquées dans sa vie, la Bible dit, peut-être que vous n'en avez pas conscience, nous n'en avons pas conscience, peut-être que nous pensons que c'est pas toujours comme ça que ça se passe. La Bible dit qu'il glorifie Dieu ou qu'il le glorifiera le jour où Dieu les visitera. Le jour où Dieu les visitera. Certainement l'apôtre Paul a glorifié Dieu quand il a vu plus tard, mais avec en tête l'image de Étienne qui était en train d'être lapidé et qui a dit « Père, ne leur impute pas ce péché. » Parce que plus tard, il parle, il dit, j'étais là. Quand il donne son témoignage, il dit, j'étais là, je joignais mon suffrage aux autres, ici. Et quand Dieu l'a visité, certainement les témoignages comme ça l'ont frappé. Et il a glorifié Dieu, disant que ça, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est-à-dire que quand les convertis voient la manière avec laquelle le chrétien vit constamment et accomplit les choses qui sont bonnes, il dit ça, ça ne peut venir que de Dieu. Que de Dieu. Et il glorifie Dieu. Il y a beaucoup d'autres raisons que l'on pourrait souligner encore, mais on n'a pas le temps de les voir toutes. Mais Jésus lui-même a dit ceci dans sa prière. Il dit, Jean chapitre 17, rapidement, Jean chapitre 17, il dit ceci. Jean chapitre 17, et au verset 4, il dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. Et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Autrement dit, comment est-ce que Jésus dit avoir glorifié Dieu sur la terre? En accomplissant toutes les œuvres que Dieu lui a confiées. Faire l'œuvre de Dieu, accomplir les bonnes œuvres, c'est glorifier Dieu. C'est glorifier Dieu. Et Nicodème vient vers Jésus, il lui dit, je sais que tu es un docteur venu de Dieu, parce que nul n'aurait pu faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il a vu ce que Jésus a fait dans sa manière de vivre, sa manière de parler, son comportement avec les autres, les œuvres de miracles qu'il a faites. Et il a dit, ça c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu veut que ses enfants vivent, qu'ils soient le reflet de sa gloire. Alors juste quelques mots. Quelles sont les bonnes œuvres maintenant que l'on peut pratiquer? Tout ce que l'on sait être la volonté de Dieu pour nous et qui est exprimé dans l'Écriture, soit explicitement, soit implicitement, est une bonne œuvre que l'on doit faire. Alors bien sûr, il y a l'étude de la parole de Dieu, il y a la prière, toutes ces choses. Il y a l'assistance, on l'a vu tout à l'heure dans Hébreux 10, hein, le fait de se rassembler pour mutuellement s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Mais la Bible donne aussi plein d'autres exemples. Marie de Béthanie, par exemple, elle a offert son parfum de très grande valeur. Elle a versé sur la tête de Jésus et Jésus a dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Parfois, c'est le fait de faire des dons sacrificiels à l'égard de Dieu, de l'œuvre de Dieu, qui est c'est une bonne œuvre quand c'est fait avec, bien sûr, par le chrétien qui croit en Jésus-Christ, etc. On pourrait noter ce que l'apôtre Paul dit à Tite concernant les veuves. Il dit qu'une veuve soit appliquée à toute bonne œuvre. Qu'elle ait élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé le pied des saints, secouru les malheureux et pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Je dis que la liste n'était pas exhaustive, mais en voilà quelques-uns. Éduquer convenablement ses enfants, c'est une bonne œuvre. Élever nos enfants dans la connaissance de l'Évangile, c'est une bonne œuvre à laquelle nous devons nous appliquer. Et la Bible dit qu'il faut s'appliquer à cette bonne œuvre. Je reviens là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir. Il faut que ça soit dans la pensée, qu'on ait de la stratégie pour le faire convenablement. On doit s'y adonner. Donc, l'éducation des enfants, l'hospitalité. L'apôtre Paul dit la même chose à Tite. Il dit qu'il faut recevoir, Tite chapitre 2, puisqu'on y est, hein. Tite chapitre 2, ici, et Tite chapitre 3 et au verset 13, il dit, aie soin de pouvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Voilà comment on peut faire une bonne œuvre. Il dit, parce que il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Il y a des besoins en hospitalité, il y a des besoins en accueil, des besoins en financier. Il dit, eh bien, les nôtres doivent apprendre, ils doivent apprendre à le faire, ils doivent apprendre à subvenir aux besoins de pressants qui peuvent se présenter à eux. C'est une manière d'accomplir ici des bonnes œuvres. Donc, on pourrait en trouver beaucoup d'autres dans l'Écriture, mais je vais terminer juste par celui-ci. On peut dire que tout ce que le croyant fait, avec le désir d'obéir au Seigneur, vraiment, est une bonne œuvre. Parce que la Bible dit, quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc tout ce que je peux faire et qui glorifie Dieu est quelque chose qui est une bonne œuvre et qui permet vraiment de le glorifier. Que le Seigneur nous aide à voir ce qui n'est pas une bonne œuvre. Dormir dans son lit au lieu de venir au culte n'est pas une bonne œuvre. Dormir quand on est fatigué est une bonne œuvre. Mais dormir quand on devrait être au culte n'est pas une bonne œuvre, frères et sœurs. Il y a plein de choses qui ne sont pas des bonnes œuvres. Passer notre temps à faire ce qui ne nous rapportera rien plutôt que de le consacrer au Seigneur n'est pas une bonne œuvre. Et chacun, nous pouvons trouver dans notre vie des domaines, n'est-ce pas, où Dieu nous parle. Et il nous est important pour chacun d'entre nous, pour nous-mêmes, de nous mettre devant le Seigneur et de comprendre que Dieu veut que ceux qui ont cru mettent un soin particulier à pratiquer les bonnes œuvres en se nourrissant de manière continuelle avec les vérités de l'Évangile de la grâce. Et donc faisons tous nos efforts pour nous exposer à la parole de Dieu, pour la connaître, et puis demandons au Seigneur comment nous pouvons, dans la pratique, être de ceux qui le glorifient par notre conduite et notre pratique des bonnes œuvres. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Je te prie que tu nous conduises, que tu nous aides à être de véritables pratiquants des bonnes œuvres, non pas pour, Seigneur, de manière égoïste, pour nous-mêmes, pour nous valoriser par rapport à d'autres, mais simplement pour obéir à ta parole. Parce que tu nous as sauvés pour de bonnes œuvres que tu as préparées afin que nous les pratiquions. Et montre-nous, Seigneur, comment nous devons obéir à ta parole, nous soumettre et chercher avec beaucoup de zèle à te servir chaque jour, tout au long de cette année que tu mets devant nous. Nous voulons te glorifier par notre attitude auprès de ceux qui ne te connaissent pas. Donne-nous de nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors et de racheter le temps. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.